Décryptage, Nathalie Amar.
Bonsoir à tous. 274 millions de locuteurs dans le monde, dont les 4/5 sur le continent africain. Ce devrait être 3 fois plus à l'horizon 2060. À première vue, l'avenir de la langue française dans le monde semble radieux. Pourtant, alors que le dernier sommet de Dakar a mis l'accent sur la dimension économique de l'espace francophone, que les chercheurs soulignent les potentialités de ce marché, eh bien, un constat s'impose. Dans le domaine des affaires, le français ne se taille pas la part du lion. À l'échelle mondiale, il se classe au 3e rang, derrière l'anglais et le mandarin, et à l'échelle européenne il est 2e, toujours derrière l'anglais. Comme si le français n'était pas assez technique, assez pointu pour communiquer sur les sujets économiques, comme si la mondialisation impliquait forcément la reconnaissance de la suprématie de l'anglais. Alors y aurait-il une obligation, voire une fatalité, à ne parler affaires que dans la langue de Shakespeare? Quel rôle les politiques menées jusqu'ici en France ont-elles joué dans cet état de fait à l'occasion de la semaine de la francophonie? On en parle durant les 20 prochaines minutes sur RFI. Et avec nous ce soir, Yves Montenay. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez été dirigeant d'une entreprise présente à l'international. Vous co-signez ces jours-ci avec Damien Soupard, La langue française, arme d'équilibre de la mondialisation. C'est paru aux éditions des Belles Lettres. Alors avant de parler du domaine des affaires, ce que vous pointez dans votre ouvrage, c'est l'anglicisation des élites politiques françaises. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Eh bien, vous vous souvenez que quand François Hollande était en campagne présidentielle, il avait fait imprimer des t-shirts H for Hope. Alors j'ai réagi à ma petite modeste façon. Les Échos m'ont laissé une petite place pour ça. Et j'ai trouvé ça tout à fait symptomatique. Je crois que finalement, ils n'ont pas été tellement distribués.
Ça a été donc le symptôme pour vous d'une anglicisation plus générale.
C'est le symbole, oui.
Des élites, tout parti confondu, en fait.
Oui, oui, oui. Ça fait partie, j'allais dire, de ce que les gens pensent qu'est le standing. Mon standing, c'est de parler anglais, c'est plus chic, c'est plus classe, c'est plus fun, c'est plus cool, tout ce que vous voulez.
vous l'employez vous-même.
Et
cette religion de l'anglais, d'où est-ce qu'elle est venue? C'est l'après-guerre? C'est le modèle américain à l'issue de l'après-guerre?
Beaucoup de raisons dont je parle dans mon livre. D'abord une raison démographique. Les Français, qui étaient un peuple important en nombre, ne le sont plus. Ce sont les peuples anglais ou chinois qui sont importants en nombre aujourd'hui, donc ça joue déjà beaucoup. Deuxièmement, de notre faute, nous avons eu des gouvernements qui ont toujours négligé la vie économique, non pas par principe, mais parce que, étant étatistes, jacobins, ils n'ont pas laissé se développer des entreprises. Et on en a eu une illustration très nette avec l'histoire du tapis rouge, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu au début du quinquennat actuel des mesures assez dures pour les entreprises, et aussitôt David Cameron est arrivé en disant, messieurs, je déroule un tapis rouge pour vous, venez quitter ce gouvernement qui vous ennuie, qui vous taxe, qui vous contrôle ou paralyse, venez chez moi, voilà le tapis rouge. Mmh. Et ça n'a pas été un simple discours. Il y a eu des comités de tapis rouge à Paris pour attirer les entreprises françaises. Donc, une partie de la responsabilité vient de chez nous.
Mmh. L'anglais, vous nous le disiez tout à l'heure, est devenu synonyme de standing. Le français s'est ringardisé au profit d'une langue plus universelle.
Ça dépend des milieux. Le français garde un rôle culturel très très important, surtout chez les femmes. C'est-à-dire que si vous allez au fond du Japon, vous allez trouver des femmes qui sont férues de littérature française, de films français, au fond de la Chine aussi. Donc il y a toute une base culturelle qui était avant la seule base d'ailleurs. Il n'y avait pas d'autre raison, puisque au fond de la Patagonie, on ne faisait pas d'affaires en français ni en anglais d'ailleurs. Et donc on a longtemps vécu là-dessus. Et ça existe toujours, et ça les gens ne savent pas.
Mmh.
Et autour de ça, par-dessus cela, massivement, il y a eu le développement économique. Le développement économique s'est fait en anglais, notamment, j'ai fait aussi un peu en espagnol et un peu en allemand. À une époque, je faisais beaucoup en allemand. Ça a disparu, mais je faisais beaucoup en allemand. Et parce que ces pays ont accueilli énormément d'immigrants, sont peuplés, parce qu'ils ont toujours favorisé leurs entreprises, quelquefois même honteusement, j'allais dire. Et donc, ce qui devait arriver est arrivé. Et quand un industriel français se fait un peu brimer en France, quand il déroule le tapis rouge en Angleterre, il se dit, indépendamment même des taxes ou du droit du travail et tout, il se dit, ouf, on ne regarde plus de travers.
Alors on va écouter tout de suite l'homme d'affaires franco-béninois Lionel Zinsou. Il est à l'origine de la Fondation franco-africaine pour la croissance. Il préside par ailleurs un fonds d'investissement PAI Partners qui est basé à Paris. Alors quand on se connecte sur le site internet de ce fonds, on voit effectivement pas mal de mots en anglais comme celui-ci, private equity. Lionel Zinsou.
Il y a un mot en français, hein, c'est le capital investissement. C'est ça la formule à la place de private equity. Mais capital investissement, en réalité, c'est moins précis, moins technique, et donc ça a eu moins de succès, y compris dans les pays francophones, pour désigner notre métier. Et notre métier, c'est de prendre des participations dans des entreprises, de les développer et de les revendre pour qu'elles passent ensuite à une étape de développement supérieur. Ça peut être du capital risque, qu'on appelle plus souvent venture capital, ou ça peut être à l'autre bout des opérations où il y a de la dette, parce que l'entreprise génère ce qu'on appelle pas du numéraire dans les affaires, mais du cash. Ce sont des opérations dites de LBO, parce qu'on met un levier de dette, et le levier de dette, ça se dit leverage buyout. Et donc, c'est vrai que c'est une profession, cette profession financière qui a été inventée aux États-Unis, dont les termes originels sont des termes anglais, et dont les termes en français, en allemand, en russe, en chinois, sont des traductions récentes qui ne sont pas encore complètement rentrées dans les mœurs.
Est-ce qu'on y travaille justement à cette francisation de toute la terminologie importée des États-Unis et des pays anglo-saxons ?
Oui, c'est quelque chose qui va progresser, mais nous ne sommes pas tout à fait une profession qui serait née au XVIIIe siècle, vous voyez. Nous sommes une profession qui est née il y a deux décennies, qui est vraiment née aux États-Unis et en Grande-Bretagne, et je crois que c'est ça qui fait que la langue française est encore jeune dans ce canton-là de la finance. Mmh. Donc je ne trouve pas que ce soit désespérant, je pense que c'est quelque chose de progressif dans le temps.
Voilà, question de temps, dit Lionel Zinsou. Tout ce vocabulaire anglais qui a colonisé, hein, si on peut dire, les discours des entrepreneurs français, va un jour être traduit. Vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, et si le français demeure. Donc on est ramené à la question principale, est-ce que le français va demeurer ? Mais si le français demeure, bien entendu, ça se fera naturellement. Et je voudrais rajouter un petit point technique. Quand on dit le mot n'a pas tout à fait le même sens en français, c'est normal, puisque la chose n'existait pas en français. Mais le mot va prendre ce sens avec l'usage. Il ne faut pas essayer de traduire un mot, j'allais dire mot à mot. Il faut lui donner un équivalent français qui est une image, et cette image va petit à petit se préciser au fur et à mesure de l'histoire.
Vous avez un exemple pour illustrer ce que vous nous dites là, d'un mot comme ça qu'on ne comprenait pas très bien, enfin dont on ne trouvait pas la traduction exacte et qui s'est petit à petit précisé avec l'usage.
Il y a software et logiciel, par exemple. Bon, software, c'est un jeu de mots en anglais, c'est pas traduisible directement en français, donc deux solutions, soit on l'appelle software, soit on l'appelle logiciel. Alors au début, les gens disent, oui, logiciel, c'est pas tout à fait pareil, il y a programme, il y a etc. Puis petit à petit, l'usage a joué, et maintenant, il n'y a pas de problème avec logiciel.
Un décryptage en compagnie ce soir d'Yves Montenay à l'occasion de la semaine de la langue française. Il est question de l'usage du français dans le monde des affaires. Yves Montenay, vous soulignez dans votre ouvrage que l'anglicisation concerne aussi le domaine de la recherche scientifique. Il y a eu un projet de loi de la ministre Geneviève Fioraso qui voulait libéraliser un peu l'usage de l'anglais. Finalement, ça a été un peu plus nuancé que ça. Qu'est-ce qui vous gêne finalement dans cette anglicisation de la recherche?
Alors, son problème, elle l'a pas posé comme la recherche, elle l'a posé comme l'enseignement supérieur. Certes, l'enseignement supérieur se veut être aussi de la recherche, mais c'est pas tout à fait pareil. L'enseignement supérieur a une vocation numéro un, et puis des vocations accessoires. Vocation numéro un, c'est de permettre aux Français de progresser, aux citoyens français, de progresser dans ce qu'ils veulent étudier. Bon, alors, pas trop de problèmes dans les premières, deuxièmes, troisièmes années d'université, quoique faudrait nuancer. Et puis, plus on monte en gamme, et plus ça se nuance, parce que, pour des raisons quelquefois excellentes, et quelquefois tout à fait mauvaises, les enseignants ou les directeurs veulent un professeur anglophone prestigieux. Les parents poussent en disant « je veux qu'il y ait des cours en anglais pour que mon fils soit prêt pour la mondialisation ». Mon fils ou ma fille, il y a de plus en plus de filles. Et donc, il y a trois problèmes. Il y a l'enseignement de masse, première, deuxième, troisième année, éventuellement quatrième année du supérieur. Là, à mon avis, il n'y a aucune raison de faire des cours en anglais, peut-être un ou deux pour s'entraîner. Mmh. Mais on est là au service des Français.
Mais sur la question de la recherche quand même, sur le fait de vouloir partager les connaissances dans une langue unique, dans des domaines parfois très pointus, en médecine, il n'y a rien de choquant là-dedans.
Je suis aussi démographe, donc je m'intéresse plus à la masse des gens qu'à un petit nombre. Les petits nombres, c'est toujours des cas particuliers. Il est tout à fait, non seulement vraisemblable, mais obligatoire en France, je ne sais pas pourquoi, je sais pourquoi, est obligatoire pour qu'une recherche soit reconnue, qu'elle soit publiée dans tel journal anglophone. Bon, c'est la règle, et on demande aux, le gouvernement français demande aux scientifiques d'envoyer des, des articles en anglais. Alors, on peut en discuter à l'infini, ça n'empêche pas de raisonner en français, et je dirais même que raisonner en français est un plus avant de faire un article en anglais, parce que ça oblige au moment de la traduction à bien réfléchir. Alors les Français s'en plaignent en disant il vaut mieux penser directement en anglais, parce qu'on gagne du temps, on gagne la traduction. À mon avis, ils se trompent, mais c'est un avis personnel. Bon, j'aime bien les langues, j'aimais bien le latin, j'aime bien l'anglais et l'allemand, et je sais que à quel point on progresse quand on traduit, quand on se penche sur un texte pour le traduire. Et on recherche, c'est évidemment fondamental.
Alors on va voir comment concrètement hein, ça peut se passer pour une entreprise française qui se développe à l'international. On va retrouver Lionel Zinsou, hein, dont le fonds a des équipes basées un peu partout en Europe, hein, Milan, Munich, Londres, Luxembourg. Dans quelle langue se parle-t-on au sein de cette société? Réponse de Lionel Zinsou.
En général en anglais, sauf cas particulier de certaines entreprises qui font attention que non. Et j'ai un souvenir tout à fait précis d'un Français, directeur d'un groupe de banques d'Europe de l'Est, basé à Budapest. Or, l'Europe de l'Est, vous savez qu'il y a 36 langues. Le letton, l'estonien, etc. Ça, il y en a un très grand nombre. Donc, il faisait des conférences en anglais. Le matin, chacun donnait les nouvelles du jour en anglais. Et puis, il a eu un doute un jour. Et il s'est dit, je vais faire un test. Et il s'est aperçu que les gens ne s'étaient pas vraiment compris. Que la conférence du matin, les gens n'en avaient pas un souvenir extrêmement précis. Mmh. Alors, ça ne donne pas de solution. Ça ne veut pas dire qu'il faut la faire en letton alors que les autres sont hongrois. Mais il ne faut pas croire qu'on a supprimé le problème. On met la poussière sous le tapis,
Dit. Alors, on va écouter hein, Lionel Zinsou. C'est très intéressant hein, ce qu'il dit justement sur cet usage de l'anglais qui sert dans certaines circonstances mais qui n'est pas suffisant dans d'autres. On écoute.
On parle un petit peu un créole anglais. C'est-à-dire qu'on met, les accents de chacun, on mélange un peu les mots. Évidemment, on parle anglais parce que quand vous avez 10 nationalités européennes autour de la table, il se trouve que c'est devenu une langue véhiculaire. On ne peut pas parler latin, mais ça c'est si on s'était réunis il y a 700 ans, 800 ans. Et on ne parle pas français parce que ça c'est probablement quelque chose, une habitude qui s'est éteinte vers la fin du 19e siècle, que ce soit la langue véhiculaire de l'Europe. Et donc c'est vrai qu'on parle absolument l'anglais quand on a une réunion où certains de nos collègues ne parlent pas le français. Même s'ils font d'ailleurs tous des efforts, comme l'entreprise est française, pour parler le français. Mais maintenant, si vous faites une réunion d'affaires où les mots sont essentiels, les concepts sont essentiels, alors il vaut beaucoup mieux la faire avec des interprètes que de parler tous ensemble un anglais légèrement approximatif. Si on se parle, il vaut mieux se parler avec des interprètes. Vous prenez l'anglais véhiculaire, si vous voulez, il permet d'avoir un certain niveau de conversation qui correspond à votre niveau de langue. Vous prenez un besoin d'aller directement au cœur des choses, vous devez parler votre langue. Prenez nos interlocuteurs japonais, par exemple, ou chinois, où on peut tous se retrouver dans un anglais très moyen, où nous avons tous 12 ans de vous voyez à peu près de niveau de langue, enfin, c'est comme si nous étions des enfants de 12 ans en termes de nombre de mots à notre disposition, et ça ne permet pas du tout d'avoir une conversation sérieuse. Vous prenez un excellent interprète, et à ce moment-là, vous parlez chacun votre langue, et la conversation devient tout de suite passionnante. Donc faire très attention, pour les choses sérieuses, profondes et précises, d'une manière ou d'une autre, il faut parler chacun la langue qu'on maîtrise le mieux, et qui est souvent quand même sa langue maternelle.
Vous êtes d'accord, Yves Montenay, pour dire que l'anglais a ses limites aussi, et que parfois il faut savoir revenir aux langues originelles.
Entièrement d'accord. Il y a plusieurs obstacles à l'anglais, langue universelle, il résout devant tous les problèmes. Le premier, bien sûr, c'est le niveau variable des gens. Deuxièmement, c'est différence culturelle. Et là, l'interprète saura mieux dire attention, soit lui-même posera la question, oui, mon ami français dit que, mais je sais que chez vous c'est différent, expliquez-moi. Donc il ne faut pas seulement être bilingue, il faut être biculturel. C'est le boulot des interprètes.
Dans votre ouvrage, vous dites que le rouleau compresseur anglophone, hein, c'est le terme que vous employez, progresse inexorablement dans les entreprises. Vous citez l'exemple d'une entreprise française, Altran, qui a une partie de son personnel à l'étranger, dont le journal interne est passé l'an dernier à l'anglais. C'est pour vous, c'est ça le rouleau compresseur, c'est que y compris dans la communication interne, on se met à l'anglais.
C'est un exemple parmi mille autres. J'ai encore un exemple il y a deux jours en France d'une réunion de travail interne où des invités américains ont dit « Ah ben non, nous on parle pas français, est-ce que vous pouvez parler en anglais pour nous ?» C'est pas très poli d'une part, surtout que je n'étais pas partie prenante aux décisions. Quelqu'un a dit « Oui, j'ai un problème un petit peu délicat, je voudrais le dire en français. Ah oh ben non, c'est pas poli pour nous autres. » C'est une attitude coloniale, tout simplement.
Et qu'est-ce qu'on perd, d'après vous, à cette espèce d'uniformisation, finalement ?
Qu'est-ce que l'on perd
dans la vie des entreprises, par exemple ?
Bon, on perd des compétences. On perd des compétences à plusieurs occasions. Premièrement, dans la réunion, dans mon exemple que je viens de citer, la personne qui avait un problème à expliquer n'a pas pu bien expliquer. Le problème n'a pas été bien résolu. Donc c'est un moins pour l'entreprise. C'est un moins pour elle aussi, parce qu'elle n'aura pas une promotion que probablement elle mériterait sur ses seules compétences. Or, sa compétence, c'est d'être DRH, c'est pas de parler anglais. De même, un juriste, sa compétence, ce sera de se tenir au courant des derniers développements du droit dans son domaine, pas forcément de parler anglais. Alors que la réponse générale, c'est « ils n'ont qu'à apprendre à parler anglais ». Eh bien, ceux qui ont essayé d'apprendre à parler anglais à des cadres de 40 ou 50 ans, en plus du perfectionnement qu'ils doivent avoir dans leur propre discipline, c'est quand même beaucoup demandé. Et puis, c'est compliqué. On dit « anglais, c'est plus simple ». Non, c'est beaucoup plus compliqué. Comme je vous dis, on met de la poussière sous le tapis. Mais la poussière, elle est là.
Alors l'anglais est là et bien là dans la vie des entreprises. Il s'est même invité en décembre dernier en clôture du sommet de la francophonie.
So when I'm talking about une diplomatie fine, what I'm saying is that we need actually to put all our efforts in concerted action.
Ce que l'on entend là, Yves Montenay, c'est la voix de la secrétaire générale, la nouvelle secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, la canadienne Michaëlle Jean, prenant la parole. Donc ça a été effectivement très très remarqué, hein, en anglais immédiatement après avoir été désignée. Ce sommet de Dakar pourtant a été suivi d'une grande première, un forum économique réunissant des chefs d'entreprise, des acteurs politiques ayant le français en partage, avec pour objectif justement de donner un coup de pouce aux échanges dans cet espace francophone. Est-ce que ça a un sens pour vous de promouvoir un espace économique francophone ?
C'est un idéal, mais ce n'est pas une tâche de gouvernement. Ou plutôt, c'est une tâche de gouvernement indirectement. Harmoniser des droits de douane, harmoniser des pratiques administratives, oui. Donner éventuellement une préférence à celui qui donnera un dossier en français, des choses de ce genre. Mais on sort très vite du domaine de l'État. Heureusement, en pratique, ça existe. C'est-à-dire que l'entreprise française n'hésitera pas à s'implanter au Maroc parce qu'elle trouvera des employés francophones et que les employés francophones seront contents d'avoir un poste dans une entreprise française installée au Maroc. Ça se fait spontanément en partie. Mais je ne pense pas que l'OIF, pour différentes raisons, puisse avoir une influence dans ce domaine, à la fois parce que ça la dépasse complètement, l'OIF c'est une petite structure par rapport à l'ensemble des entreprises, et aussi parce que l'origine historique des gens qui sont à l'OIF, sont des gens très bien, ce n'est pas l'entreprise, ils ne savent pas de quoi ils parlent.
Il y a une méconnaissance pour vous de ce monde de l'entreprise à la tête de cette
J'entends des phrases qui ne sont pas fausses grammaticalement, mais qui sont totalement fausses factuellement.
Avant de refermer cette édition, je voudrais simplement vous interroger sur ce chiffre que l'on citait en ouverture. Selon les projections des démographes, en 2060, nous serons quelque 760 millions de personnes de par le monde à s'exprimer en français. C'est pas si mal quand même comme rayonnement. On s'alarme de la progression de l'anglais, mais c'est quand même pas si mal.
C'est très bien. Le français recule un peu en Europe, en France, à l'extérieur de la France, il se développe dans beaucoup d'autres pays. Et ce chiffre sera bon si l'enseignement continue à se développer, ce qui n'est pas sûr, s'il n'y a pas de bouleversement politique dont une contrepartie serait le changement de langue. Il y a eu déjà des pressions dans au Rwanda, une pression qui a réussi, à Madagascar, une pression qui a raté, au RD Congo, une pression qui a raté. Mais il y a des pressions politiques, et quand je dis politique, c'est commercial aussi, parce que les pays, comme je le disais, certains pays font attention aux entreprises, beaucoup plus que la France. et donc leur politique linguistique, c'est aussi pour leurs propres entreprises.
Merci Yves Montenay d'avoir participé à ce décryptage dans 30 secondes des dernières infos sur RFI.